France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, triste tropique, l'aventure humaine. Chapitre 3, au cœur de la forêt. Au cours des deux premiers épisodes, nous avons suivi Claude Lévi-Strauss et sa femme Dina dans leur première aventure brésilienne, celle de 1935. Ces deux jeunes intellectuels, qui n'ont pas de formation en ethnologie, ont appris par eux-mêmes à travers leur lecture. Ils ont monté une mission à la rencontre des sociétés autochtones du Mato Grosso, région du Brésil dont le nom signifie « grande brousse ». Après un premier séjour chez les Caduveo, ils repartent dans la forêt à la recherche cette fois du peuple Bororo. Le livre « Triste tropique », qui raconte les quatre années d'expédition de Claude Lévi-Strauss au Brésil, change alors une nouvelle fois de dimension. C'était déjà un récit d'aventure, une peinture de paysage et un essai par moments quasi philosophique. À cela vient s'ajouter un livre d'anthropologie issu de l'observation minutieuse du mode de vie des Bororo et des Caduveo. Et tout cela forme un grand livre.
Triste tropique, l'aventure humaine. Une série en 6 chapitres de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Xavier Joly. Attaché de production, Anne-Vanessa Prévost.
Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous tenir aux côtés de Claude Lévi-Strauss au moment où il rencontre les Bororo et les Nambiquara. Nous resterons avec lui pour comprendre le cœur de ses expériences ethnographiques, c'est-à-dire l'observation du quotidien des différents peuples autochtones qu'il a eu l'occasion d'étudier.
Comment nous avons passé, je ne sais. Le voyage reste dans mon souvenir comme un cauchemar confus. Un matin, notre camion s'est laissé descendre vers le São Lourenço, signalé par le brouillard épais de la vallée. Avec le sentiment d'avoir accompli une prouesse, nous nous annoncions à grands coups d'avertisseurs. Pourtant, nul enfant ne venait à notre rencontre. Nous débouchons sur la rive, entre quatre ou cinq huttes silencieuses. Personne. Tout était inhabité. Et une rapide inspection nous convainquit que le hameau était abandonné. À bout de nerfs après les efforts des jours précédents, nous nous sentions désespérés. Et puis un jour, nous aperçûmes deux formes nues qui s'agitaient sur la berge. Nos premiers Bororo.
Nastasia Martin, vous êtes anthropologue, spécialiste des mondes autochtones du Grand Nord. Vous êtes également autrice, notamment des livres « Les âmes sauvages » et « À l'est des rêves ». Et tout comme Claude Lévi-Strauss, vous avez vécu au milieu des communautés autochtones. Pour vous, c'était non pas au Brésil, mais en Alaska et au Kamchatka. Cette lecture de Triste Tropique qu'on vient d'entendre, de quelle façon est-ce qu'elle peut résonner en vous?
Elle résonne tout simplement parce que, comme je pense un grand nombre d'apprentis ethnographes, j'ai vécu ce moment de l'arrivée sur le terrain exactement de la même manière, c'est-à-dire d'une manière très déceptive finalement. On s'imagine tout un monde, on construit nos problématiques depuis les bibliothèques dans lesquelles on travaille. On se dit qu'on va pouvoir accéder à ces cosmologies qui nous fascinent et qui vont enfin pouvoir nous permettre de re-questionner nos mondes autrement. Et généralement, ce qui se passe quand on arrive, c'est non seulement d'abord tout autre chose, mais c'est d'abord rien, en fait. Il y a vraiment cette relation au cauchemar, comme il dit, mais aussi à une forme d'ennui, quelque part, qui doit s'installer. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est au moment où l'ennui le plus profond s'est installé que quelque chose arrive.
Mais pourtant, vous aviez lu Triste Tropique et d'une certaine façon, Claude Lévi-Strauss vous avait prévenu que c'était ça qui allait vous arriver.
Oui, après, dans Triste Tropique, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, c'est-à-dire que ce récit de l'arrivée cohabite aussi avec tout l'émerveillement qui a pu surgir, c'est-à-dire l'émerveillement qui surgit vraiment de cette traversée de l'enfer, entre guillemets. Et c'est toujours sur cette corde raide entre la désespérance et le moment où quelque chose surgit, que la rencontre, la possibilité de la rencontre émerge. Donc moi, c'est ça en fait qui m'a fascinée dans Triste Tropique et littéralement qui je pense qui a déclenché une vocation d'ethnologue.
Beaucoup de personnes disent que Triste Tropique a changé leur vie. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que vous comprenez pourquoi un livre comme celui-là ou ce livre-là peut changer la vie de quelqu'un?
Oui, ça a été le cas pour moi. J'étais à l'époque en première année de licence de sociologie. Je sentais bien que la sociologie, ça ne me convenait pas tout à fait. Et le professeur de sociologie que je suivais nous a fait étudier Triste Tropique dès la première année. Donc j'avais 17 ans. Et oui, immédiatement, ça a été la révélation que ça allait peut-être être possible de faire ça. Néanmoins, plus on grandit, plus on se rend compte que ce type de rêve exotique est peut-être déjà mort. Et ensuite, en 2005, ça a été la rencontre avec le livre de Philippe Descola, Part de la nature et culture, qui a permis de formuler plus précisément la possibilité de faire le choix de l'anthropologie.
Au chapitre 23 de Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss raconte sa découverte du village Bororo. Il raconte que les habitations ne sont pas faites en pierre, mais en matières organiques. Comme si le village était tressé, noué, brodé, dit-il, davantage que bâti. Il parle des habitations que leur taille rend majestueuse en dépit de leur fragilité. Et c'est à la façon d'un écrivain qu'il écrit par exemple que « le village se dresse comme une légère et élastique armure proche des chapeaux de nos femmes plutôt que de nos villes ». Durant les semaines passées au milieu des cas du VO, Lévi-Strauss avait ressenti de la lassitude et du découragement. Certes, ils arboraient des dessins corporels d'une grande beauté. Mais la misère dans laquelle ils se trouvaient, ainsi que l'apparition dans leur quotidien d'objets de la modernité occidentale, avait pour Lévi-Strauss quelque chose de déprimant. La rencontre avec les Bororo, en revanche, est tout autre. Peut-être a-t-il trouvé là cet ailleurs qu'il cherchait depuis longtemps.
Vous imaginiez des gens qui vivent de petite agriculture, de pêche, de chasse, de cueillette et de ramassage, arrivent à subvenir à leurs besoins au prix d'un très faible effort. Eh bien, qui pouvait consacrer la moitié ou les trois quarts de leur temps à se décorer, à s'orner des plumes les plus magnifiques? Il y avait des coiffures de plumes qui mesuraient 1m50 ou 1m75 de hauteur, n'est-ce pas, aussi grande que le porteur, parés de colliers, de dents d'animaux sauvages, enfin les crocs de jaguar d'une blancheur éclatante, les ongles des grands tatous qui sont comme de l'écaille, qui chantent, dansent pendant des heures. Alors ça en soi-même c'est enivrant.
Nastasia Martin, que vous évoque cette archive?
Ce que ça m'évoque lorsqu'il raconte les parures, les vêtements et même la texture élastique du campement, c'est vraiment cette idée de l'enchevêtrement des êtres. On a souvent reproché à Claude Lévi-Strauss de s'être tenu dans la partition qu'on a beaucoup critiquée depuis entre la société, la culture d'un côté et la nature, l'univers physique de l'autre. Et néanmoins, quand on entend sa description, on se rend bien compte qu'en fait, il n'est déjà plus dans le paysage. Il n'est absolument pas dans le paysage, en l'occurrence, quand il arrive là chez les Bororo. Il est déjà en train, dans ses paroles, de faire des ponts qui, a priori, si on s'en tenait au mode de vie théorique et à la théorie, qui en fait qui ne tiendrait pas. Mmh. Et notamment chez les Bororo, lorsqu'il parle du village, il l'évoque comme un univers. Alors, il garde le terme sociologique, mais lorsqu'il évoque l'univers physique qui l'entoure, il écrit cet univers physique lui-même composé d'êtres animés, corps céleste et météorologique. Vous voyez, c'est-à-dire que là, en fait, c'est déjà complètement en train de se... La vision du paysage comme une peinture extérieure à son spectateur qu'on va pouvoir contempler à distance, elle n'existe déjà plus.
On était en présence d'une société qui avait duré, qui s'était transformée au cours des temps comme n'importe quelle autre société, mais qui refusait de l'admettre et qui considérait que dans le plan du village, dans son organisation, elle conservait l'image même des premiers temps, qu'elle était telle que les créateurs avaient voulu qu'elle soit. En fait, les danseurs dans les cérémonies incarnent chacun un personnage mythologique. Et pendant qu'ils l'incarnent, ils sont ce personnage mythologique qui revit, qui est là. C'était donc une société qui abolissait le temps. Et après tout, quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps et de vivre dans une sorte de présent qui est un passé revivifié sans arrêt et maintenu tel qu'il était rêvé dans les mythes et dans les croyances.
Comment est-ce que Claude Lévi-Strauss faisait pour parler tout simplement avec les bororos, pour les comprendre? Est-ce qu'il y avait des intermédiaires? Est-ce qu'il avait appris leur langue? Comment en fait ça se passait?
Alors à l'époque, les missions ethnographiques étaient beaucoup plus lourde entre guillemets que celle que nous, ma génération, nous avons menée. C'est-à-dire que oui, ils avaient des interprètes, ils avaient toute une caravane qui les suivait et qui les aidait dans leur mission. Il n'était pas tout seul au milieu de la forêt. Par ailleurs, comme vous l'avez dit, il était accompagné par sa femme. C'était vraiment toute une les missions à l'ancienne. C'était des vraies caravanes. Mais de toute façon, pour avoir une connaissance tout en finesse des manières dont un collectif se relie à son monde, il faut comprendre la langue, évidemment. Parce que sinon, vous perdez...
Mais qui n'est pas forcément la même entre, pour reprendre l'exemple de Claude Lévi-Strauss, les Nambikwara, les Kaduvéo...
Qui n'a absolument rien à voir.
Qui n'a absolument rien à voir. Et donc, c'est extrêmement complexe pour lui, probablement, d'arriver comme ça à saisir exactement ce qui se passe.
Probablement qu'il ne saisissait pas exactement
tout ce qui se passait. Mais c'est pas grave, on arrive quand même à faire de l'ethnologie malgré ça.
Mais de toute façon, on ne saisit jamais tout ce qui se passe. En fait, on ne saisit que des bribes et des fragments. La question de la traduction, même si vous parlez parfaitement la langue, elle reste toujours présente. C'est-à-dire que pour complètement incorporer les manières d'être d'un collectif, il faudrait y vivre pendant 10, 20 ans. Véritablement, sans et ça, c'est pas ce que les ethnologues font généralement. En tout cas, c'est plus rare.
Donc, qu'est-ce qu'on peut saisir alors ?
Mais ce qu'on peut saisir, alors ça, c'est une interprétation très très personnelle. Pour moi, ce qu'on peut saisir, c'est ce qui émerge de la rencontre. Parce que quand vous arrivez avec ce que vous êtes vous, forcément, les personnes que vous allez rencontrer se transforment à votre rencontre, tout comme
s'adapte à vous, comme vous adaptez à eux.
Exactement. Il y a une transformation mutuelle. Et en fait, ce qui est très beau pour moi dans la rencontre entre des altérités, c'est que il y a quelque chose qui se crée dans la rencontre qui n'existait ni dans l'un ni dans l'autre.
Est-ce que vous diriez, parce qu'on disait beaucoup que Claude Lévi-Strauss était une personne qui était d'apparence assez jugeante, est-ce que vous diriez qu'il a atteint un degré de non-jugement très profond vis-à-vis des peuples autochtones qu'il a rencontrés, en l'occurrence au Brésil ? Est-ce que ça se sent dans Triste Tropique ?
Oui, alors non-jugement, bien sûr, mais je pense que le terme qui serait plus ajusté, c'est d'amour. C'est-à-dire, il est vraiment tombé amoureux des populations autochtones du Brésil. Et d'ailleurs, on le voit bien, il n'a pas du tout, dans Triste Tropique, la même relation à ce qu'il peut raconter de l'Inde, à ce qu'il peut raconter de l'islam, à ce qu'il peut raconter de la Chine.
Il était plus proche des...
C'est pas qu'il était plus proche, c'est qu'il était en amour avec ce type de collectif-là, et qui sont aussi des collectifs. Je pense que c'était très certainement lié aussi au type de... Pas que à la question cosmologique, mais aussi au type de structure politique, qui était beaucoup plus anarchiste, finalement, beaucoup plus libre.
Qui lui correspondait finalement davantage.
Et qui pouvait lui permettre très certainement de formuler en lui une critique plus aiguisée de systèmes collectifs plus hiérarchiques, tels que celui dans lequel aussi on vit, nous, ici.
Petit à petit, la confiance se tisse entre l'ethnologue et les collectifs qu'il observe. Il calcule par exemple les distances entre les huttes du village. Il émet et vérifie des hypothèses. À chaque terrain, la méthode se répète, mais auprès de populations différentes. Après les Kaduvéo et les Bororo, il séjourne chez les Nambikwara. Un nouvel extrait de Triste Tropique.
Les enfants paraissent pendant une grande partie du jour. Les fillettes se livrant par moments aux mêmes besognes que leurs aînés, les garçonnets oisifs ou pêchant au bord des cours d'eau. En outre, les jeunes femmes aiment la société des enfants et des adolescents, jouent et plaisantent avec eux. Et ce sont les femmes qui prennent soin des animaux, de cette façon humaine propre à certains Indiens sud-américains. En voyage, et sauf les animaux capables de marcher, toute la ménagerie est embarquée avec les autres bagages. Les singes, cramponnés à la chevelure des femmes, les coiffent d'un gracieux casque vivant, prolongé par la queue enroulée autour du cou de la porteuse. L'attitude nambikwara envers les choses de l'amour peut se résumer dans leur formule « faire l'amour, c'est bon ». Au cours des jeux amoureux auxquels les couples se livrent si volontiers et si publiquement, et qui sont souvent audacieux, je n'ai jamais noté un début d'érection. Le plaisir recherché paraît moins d'ordre physique que ludique et sentimental.
Entre deux expéditions, Claude Lévi-Strauss repasse quelque temps à Paris. Il se rend dans les petites boutiques du carrefour Réaumur-Sébastopol, ce quartier de la capitale française qui, dit-il, lui est aussi inconnu que l'Amazonie. Il y achète des objets qui pourraient servir de cadeaux ou de monnaie d'échange avec les habitants des villages d'Amazonie, des perles rocailles, des hameçons ou de la verroterie. Il prend soin de poser les perles sur sa langue afin de vérifier qu'elles sont bien teintées dans la masse, car il sait qu'elles ne doivent pas déteindre si elles sont plongées dans l'eau. C'est la préparation d'une nouvelle grande expédition qui va se passer avec autant de difficultés et d'émerveillement que les premières. En 1938, le voilà reparti. De nouveau, le voyage est pénible. Il peste contre la lenteur du convoi avant de comprendre que ce sont les bœufs qui dictent la vitesse de la marche aux humains et pas le contraire. Il écrit « Ces bêtes pesantes se transformaient en autant de duchesses dont il fallait surveiller les vapeurs, les sautes d'humeur et les mouvements de lassitude. Un bœuf ne prévient pas s'il est fatigué ou si sa charge est trop lourde. Il continue d'avancer, puis tout à coup, il s'effondre, mort ou exténué. » Le voilà à présent chez les Nambikwara, où il tente une nouvelle expérience.
J'avais emporté dans mes bagages quelques-uns de ces grands ballons multicolores en papier de soie qu'on emplit d'air chaud en suspendant à leur base une petite torche et qu'on lance par centaines au Brésil à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. L'idée malencontreuse me vint un soir d'en offrir un spectacle aux indigènes. Un premier ballon qui prit feu au sol suscita une vive hilarité, comme si le public avait eu la moindre notion de ce qui aurait dû se produire. Au contraire, le second réussit trop bien. Il s'éleva rapidement, monta si haut que sa flamme se confondit avec des étoiles, erra longtemps au-dessus de nous et disparut. Mais la gaieté du début avait fait place à d'autres sentiments. Les hommes regardaient avec attention et hostilité, et les femmes, têtes enfouies entre les bras et blotties l'une contre l'autre, étaient terrifiées.
Nastasia Martin, en quoi ce qu'on a entendu, soit dans les archives, soit dans le récit, peut correspondre à ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous rappelle, tout ça?
Là, en l'occurrence, les lanternes lancées, ça me rappelle le feu, ça me rappelle la relation au feu qui est vraiment très très importante, et que Kamtchatka, le feu, est relié à l'idée du cœur, et on met le feu au centre de la yourte, comme le cœur est au centre de notre corps, et la yourte se construit autour du feu, qui est vraiment central.
Mais est-ce que vous avez fait des expériences un petit peu de ce type-là, c'est-à-dire provoquer vous-même, c'est-à-dire intervenir dans la vie des personnes avec qui vous vivez pour essayer de, voilà, d'interagir avec eux différemment, pour comprendre quelque chose?
Oui, alors généralement j'évite, c'est-à-dire que bien sûr, évidemment, on arrive toujours avec des cadeaux, avec des choses qui sont présentes chez nous et qui ne sont pas présentes là-bas. Mais généralement, on repart toujours avec plus de cadeaux de leur part que ce qu'on a pu amener dans nos bagages.
Mais comment trouver le bon cadeau ? C'est pas évident. Qu'amener ? Quoi offrir ?
Non, c'est pas évident. En l'occurrence, moi, ce que j'amène tout le temps sur le terrain et ce qui marche très très bien, c'est du tabac à rouler, figurez-vous. Qui est vraiment quelque chose qui est très très apprécié, qui généralement n'est pas présent. Et il faut en amener vraiment beaucoup parce qu'ils sont vraiment très très friands de ce tabac roulé.
Et qu'est-ce que vous avez en échange ? Qu'est-ce qu'on vous offre en général ?
Ça, je ne sais même pas par où commencer la liste. C'est un monde. Un monde, oui.
On l'a dit, Triste Tropique est ce livre multiple où le récit de voyage devient tout à coup traité d'ethnologie et vice-versa. Parmi ces pages les plus intéressantes figurent celles qui concernent l'organisation du village Bororo. Toutes les huttes sont en effet disposées en forme de cercle autour d'une très grande hutte centrale. Les femmes ont hérité des habitations où elles sont nées, tandis que les hommes partent vivre chez leurs femmes au moment du mariage. Les hommes passent cependant la journée entre eux, dans la hutte située au centre qui est interdite aux femmes. Claude Lévi-Strauss décrit minutieusement cette organisation sociale qui se fond avec l'organisation spatiale. Comme si le plan du village incarnait exactement les relations entretenues par ses membres. Autre exemple, la population du village est divisée en deux groupes. Le premier groupe est constitué de la moitié qui habite à l'est. Le deuxième est formé par la moitié située à l'ouest. Or, les hommes du groupe 1 peuvent uniquement se marier avec les femmes du groupe 2 et vice-versa. Là encore, la vie sociale du village se retrouve dans sa forme même. Lévi-Strauss raconte que, un jour, des missionnaires ont forcé les Bororo à disposer leur hutte de manière à en faire une rue toute droite. Du jour au lendemain, leur village ne formait plus un cercle. Immédiatement, leur organisation sociale en avait été complètement bouleversée, de même que leur système matrimonial. C'était comme s'il ne valait plus la peine de suivre la coutume, puisque la forme du village avait été brisée. Nastasia Martin, une réaction à cette histoire ?
Oui, ça rejoint ce que je vous disais juste avant sur la question du feu. Si vous enlevez le feu aux événements, si vous enlevez le feu du centre de la yourte n'existe plus.
On se doute que les Nambikwara ne savent pas écrire, mais ils ne dessinent pas davantage, à l'exception de quelques pointillés ou zigzags sur leurs calebasses. Comme chez les Kaduveo, je distribuais pourtant des feuilles de papier et des crayons dont ils ne firent rien au début. Puis, un jour, je les vis tous occupés à tracer sur le papier des lignes horizontales ondulées. Que voulaient-ils donc faire ? Je dus me rendre à l'évidence. Ils écrivaient, ou plus exactement, cherchaient à faire de leur crayon le même usage que moi, le seul qu'ils puissent alors concevoir, car je n'avais pas encore essayé de les distraire par mes dessins. Pour la plupart, l'effort s'arrêtait là, mais le chef de bande voyait plus loin. Seul, sans doute, il avait compris la fonction de l'écriture. Aussi m'a-t-il réclamé un bloc-notes, et nous sommes pareillement équipés quand nous travaillons ensemble. Il ne me communique pas verbalement les informations que je lui demande, mais trace sur son papier des lignes sinueuses et me les présente comme si je devais lire sa réponse. Lui-même est à moitié dupe de sa comédie. Chaque fois que sa main achève une ligne, il l'examine anxieusement comme si la signification devait en jaillir. Et la même désillusion se peint sur son visage. Mais il n'en convient pas. Et il est tacitement entendu entre nous que son grimoire possède un sens que je feins de déchiffrer. Le commentaire verbal suit presque aussitôt et me dispense de réclamer les éclaircissements nécessaires.
Là, dans l'extrait et dans Triste Tropique, Lévi-Strauss raconte que, à partir de cet exemple de l'écriture qui arrive comme ça, il dit que c'est pas forcément un progrès. Ça peut être aussi plutôt un problème, puisque l'écriture, c'est le pouvoir, et l'écriture, ça amène le pouvoir. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
L'écriture, elle vient stabiliser des histoires, des mots qui sont tissés de manière généralement circulaire et sur une ligne de temps qui n'est pas du tout linéaire, qui tourne comme ça en spirale, hein, où on tire un fil de la pensée et on vient comme ça tisser le monde. Et c'est ce qu'on fait tout le temps autour du feu lorsqu'on se raconte des histoires. Et l'écriture, à un moment donné, elle vient stabiliser quelque chose qui n'a pas forcément vocation à être stabilisé. Mm-hmm. Parce que justement, quand il se stabilise, il risque de se rigidifier. Et donc, on risque de perdre le mouvement du monde lui-même, là où les êtres peuvent nous déborder, etc., et donc de complètement se planter. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit sur le terrain. Attention à ce que tu écris, parce que, en fait, ce n'est déjà plus ça. Ce que tu écris, c'est déjà mort. Mmh. Voilà, il y a ce rapport entre l'écriture et la mort qui est quelque chose qui est vraiment très vu par la plupart des collectifs autochtones. Et donc, comment trouver des modes d'écriture qui, en tout cas, qui essaient de compenser la possibilité de cette pétrification, de cette mort. Et ça, c'est tout un travail. C'est ça le travail de la littérature, de l'écriture littéraire.
Il y a cette chose très contre-intuitive pour nous, quand Lévi-Strauss dit « c'est peut-être pas un progrès du tout ». Ce qui nous semble être le grand progrès, c'est-à-dire l'écriture qui permet de diffuser la culture. Mais en fait, pas forcément, et pas pour tout le monde, et pas dans tous les cas, et pas à chaque fois.
Non, ce n'est pas un progrès du tout. C'est un certain choix qu'à un moment donné, un collectif humain qui s'est élargi au fil des siècles, c'est un chemin qui a été pris. Mais évidemment que ce n'est pas le seul chemin. Néanmoins, aujourd'hui, l'écriture, spécialement ici, dans un monde qui est en train d'être complètement englouti par la question de l'image, pour moi, redevient une arme politique importante qui peut être mise au service des oralités de ces collectifs autochtones.
En 1949, 10 ans après ce moment où il avait partagé la vie des Nambikwara, Claude Lévi-Strauss est revenu à Paris. Il tombe sur la publication de l'un de ses collègues ethnologues qui s'est rendu à son tour dans la forêt amazonienne où il a rencontré les Nambikwara. Cet article lui apprend qu'il ne reste plus que 18 Nambikwara sur les 140 membres environ que comptait le village. Horrifié, Lévi-Strauss découvre aussi qu'ils vivent dans des conditions misérables, dans un état dépressif, alors que 2 missions se sont installées au village, des jésuites et des protestants américains. Il reprend alors ses carnets et tombe sur cette phrase, griffonnée à la lumière d'une lampe de poche, qui reprend ses impressions concernant les Nambikwara. Je cite... On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde insouciance, une naïve et charmante satisfaction animale, et, rassemblant ces sentiments divers, quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Un mot, Nastasia Martin, sur ce terme de satisfaction animale qu'aujourd'hui on a du mal à lire comme ça, parce qu'on a l'impression que Claude Lévi-Strauss renvoie à une forme d'animalité les personnes qu'il a croisées. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le lire? Probablement pas. Est-ce que vous pouvez nous remettre
non,
en contexte
non,
ce terme?
Absolument pas. Par ailleurs, on est avec des collectifs qui ne mettent pas cette barrière entre l'humanité et les animaux, le reste des animaux qui peuplent leur milieu, de la même manière que nous. C'est-à-dire que si les animaux se voient comme des humains et les humains comme des animaux, si la question du perspectivisme, si il est possible durant des rituels ou des rêves de se transformer les uns dans des autres, si on a des ancêtres qui ne sont pas forcément des humains mais qui sont des animaux et vice-versa, Il y a absolument aucun problème dans cette phrase. Néanmoins, pour la comprendre, il faut se déplacer dans une autre cosmologie.
La cosmologie, c'est notre manière d'organiser notre rapport au monde, comment on pense le monde.
Exactement.
À la fin de sa mission en 1938, Claude Lévi-Strauss sort de l'isolement provoqué par la forêt. Il découvre alors tout ce qui s'est passé durant ces mois coupés du monde. C'est là qu'il apprend simultanément la signature des accords de Munich et l'imminence de la mobilisation en Europe. Cible des nazis en tant que juif et en âge de combattre, il décide pourtant de rentrer en France. Mais les années qui s'ouvrent vont être pour lui celles d'un grand déracinement, comme nous allons le voir dans l'épisode qui vient.